Ville en mouvement, douce apocalypse, filmé collectif, le FIFAM, on débobine.
We're family people, we don't know nothing about fight.
Je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'ai un secret, je suis un héros.
Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier? C'est moi.
Quand le ciel devient sombre, tout sombre, quand il fait nuit, pourquoi je me sens triste?
Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de On débobine, l'émission quotidienne du Festival international du film d'Amiens sur le 87.7 FM. Pour ce retour en force, je suis en compagnie d'une sacrée équipe. Gaël et Adam, vous êtes toujours au rendez-vous, bonjour.
Bonjour, et toujours au rendez-vous avec Adam.
Toujours présent, toujours là, toujours debout.
Merci Renaud.
Fallait qu'il y ait la place.
Cette année, nous sommes aussi rejoints par Antoine, nouveau chroniqueur à la radio, et notre stagiaire star Léo. Bonjour à vous deux.
Et bonjour, oui, c'est mon premier passage au FIFAM, pas mon premier à la radio. Je suis déjà passé il y a quelques temps, un petit moment maintenant déjà quand même, mais c'est mon premier FIFAM et je suis ravi d'être là.
Et bonjour, bah écoutez, moi c'est mon premier passage tout court à l'antenne, donc ravi de vous retrouver.
Alors, qui dit nouvelle année de festival, dit nouveau film. Et pour ce premier épisode de la semaine, on va parler de la catégorie Douce Apocalypse, avec Saskia, programmatrice de cette section.
C'est la section qui est un peu plus expérimentale que les autres. Et la genèse de cette programmation, c'était, en fait au début on a commencé à réfléchir par rapport à l'écocinéma, la notion d'écocinéma, et de montrer l'écologie par la forme et pas forcément que le fond, pas faire une programmation de film environnementaliste, mais plutôt vraiment réfléchir l'écologie, le rapport nature-humain et par la plasticité, la matière, par le son, qu'est-ce que ça induisait, est-ce que le montage, la lenteur aussi font partie de la représentation écologique aussi. Et donc ça c'était l'impulsion de base, et après on s'est penché sur, quand on pense écologie, on pense fin du monde, apocalypse, société thermo-industrielle, fin de la société. Et en fait, on s'est dit qu'à chaque fois, c'était toujours des représentations soit catastrophiques, ou en fait, à partir du moment où l'humanité meurt, le monde meurt et tout le monde est triste, alors qu'en fait, c'est pas une réalité, qu'il y a plein d'autres possibilités, peut-être sans l'humain, qui peuvent exister. En fait, il y a mille futurs qui peuvent exister, et du coup on s'est dit qu'on avait envie de se faire kiffer et de montrer et des films qui réfléchissaient sensiblement, charnellement à la matière, à l'apocalypse.
Et le choix des films, est-ce qu'il a été compliqué? Est-ce qu'il y a beaucoup de films qui en parlent justement, ou est-ce que au contraire c'est assez restreint et c'est assez de niche?
Il y en a beaucoup, tout ce qui est science-fiction un peu futuriste, toute la science-fiction des années 80-90 parle beaucoup de la fin du monde, la fin de la société, etc. Mais nous, ce qui a été notre critère de sélection, c'est aussi qu'est-ce qui nous faisait ressentir des choses vraiment physiquement, quand est-ce qu'on le ressentait dans notre ventre, le film, où est-ce que ça se plaçait, est-ce que aussi les matières, enfin là vous venez d'interviewer la réalisatrice de Planète, mais c'est quand même, c'est très plastique, très, très vivant aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, et ça a été ça en fait le critère de sélection et sur lequel on s'est axé, c'était et que ce soit une apocalypse plus douce, plus sensible et aussi qui se passe vraiment dans le corps, quoi.
Alors là, on est au deuxième jour de festival quand on enregistre cette interview. Est-ce que, donc il y a déjà des films de la section qui ont été diffusés. Est-ce que tu as eu un retour du public? Est-ce que des personnes t'ont entendu, par exemple, des voix dire « Ah, c'était super » ou alors justement « C'est bizarre, on comprend pas »
Oui, hier, du coup, pour Koyanitskat Skatsi, pardon pour la prononciation. On a plusieurs personnes qui sont sorties, qu'on a vues à la devant la Maison de la Culture, et c'était soit elles avaient détesté, ou alors moi j'ai un copain du coup qui venait de Bretagne exprès et qui a la musique de la bande sonore dans sa playlist depuis des années, qui m'a dit que c'était une des plus belles séances depuis 5 ans. Le mec était en école de ciné, tu vois, il en a fait des séances, donc t'as vraiment été hyper hyper contrasté, quoi. Soit les gens ont détesté, soit les gens ont adoré le film. Et c'est un peu...
Il n'y a pas d'entre-deux.
Il n'y a pas d'entre-deux, oui.
Ça, c'est fou.
Ça ne laisse pas de marbre. C'est compliqué de sortir cette séance et de se dire, oh, ouais, je sais pas, ouais, pas mal. Enfin, tu vois, c'est pas compliqué de trouver ça pas mal. Enfin...
Ouais, c'est un peu général.
Oui.
Merci beaucoup, Saskia.
Avec plaisir.
Alors, on l'a entendu, Saskia a parlé du film Koyanikatsi. Et je l'ai écorché.
Tu l'as écorché, tu mais l'as bien écorché savais, comme il faut.
Parce que vous ne le savez pas, mais ouais. Je me suis entraînée pendant 10 minutes à dire ce mot. Ce
faut
nom
recommencer
de film.
Du coup.
Je pense qu'il faut recommencer. Non, Gaël, tu as vu ce film, qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh bien écoute, Koyaanis Katsi, qui s'écrit du coup K-O-Y-A-N-I-S-Q-A-T-S-I, Koyaanis Katsi, Imbattable au Scrabble rang.
Tu te la pètes un peu là quand un même, t'as réussi à le dire, ça y est. Hein.
Ouais, mais j'arrive à le dire depuis hier parfaitement, j'adore. Voilà. Non, du coup, c'est un film documentaire expérimental qui est réalisé par Godfrey Reggio et qui est sorti en 1982. C'est un film qui, depuis l'année 2000, est classé carrément au National Film Registry à la bibliothèque du Congrès à Washington pour son importance culturelle. Il est surtout connu pour une bande originale composée par Philip Glass, qui depuis a été reprise un peu partout, notamment, moi c'est l'exemple que j'ai parce que c'est comme ça que je l'ai connu, on peut l'entendre notamment dans Watchmen de Zack Snyder, adaptation du comics de Alan Moore, parce qu'elle est déjà mentionnée apparemment, il me semble, dans le comics, voilà. Donc c'est une œuvre du coup qui est très importante, notamment parce que c'est un film qui a des visions de fin du monde un petit peu, dans le sens où en gros c'est un film non narratif qui démarre, on va dire, très éloigné de la population. C'est-à-dire qu'on est dans un, je saurais pas dire exactement à quelle civilisation on est à ce moment-là, mais c'est plus on commence vraiment vers les premières prophéties Hopi, du coup, parce que le titre Koyaanis Katsi est une signification Hopi, en fait, c'est la définition un peu de la vie qui se désagrège, on va dire, un petit peu, pour résumer. Il y a plusieurs définitions, on va dire. Mais voilà, mais en gros, on part de cette culture, et puis ensuite, on va traverser plusieurs paysages, plusieurs milieux naturels, avant d'arriver progressivement vers la civilisation, vers l'urbanisme. Voilà. Et c'est un film qui est notamment connu parce qu'il est un des premiers à utiliser le time-lapse. Le time-lapse, c'est la fameuse technique où, en fait, c'est de très longues images qui sont filmées pendant très longtemps. Ça prend du coup beaucoup de temps de tournage, et du coup une fois que c'est accéléré, ça se transforme en flux, on va dire, vraiment, voilà. Et du coup, il y a des scènes très impressionnantes dans le film où on voit des flux, notamment de personnes, de voitures, dans des centres commerciaux, dans des, voilà.
Le fait que tu parles de timelapse, ça me fait penser aussi au film Planète.
Tout à fait.
Et ça me permet de faire une super transition. Vous voyez comment c'est, et t'as vu ça, c'est super soigné, hein. Avec Adam, vous êtes allé voir Planète, qui était une avant-première du film de Momoko Seto. De mon côté, moi j'ai vu ses courts-métrages Planète A et Planète Z, et je dois dire que j'étais assez surprise de ce côté très expérimental. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de Planète? Alors, vous avez rencontré la réalisatrice. Oui. Donc, avant qu'on s'écoute votre petit échange, vous, quelle a été votre opinion du film?
Je commence, après je te passe le micro, Adam. Mais moi, du coup, justement, par rapport à Koyaanis Katsi, vous verrez dans l'interview, je ne vais pas trop en dévoiler, mais ça fait partie des influences de la cinéaste, et ça se voit, à la différence que c'est un peu plus narratif quand même, il y a des personnages, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, en gros, on suit la traversée de trois petites graines, en fait, littéralement, qui ont été anthropomorphisées grâce à l'animation 3D. Donc c'est majoritairement un film filmé en prise de vue réelle dans pas mal de pays pour créer un collage, vraiment un collage à l'écran qui mélange prise de vue réelle et animation 3D pour ces petits personnages, voilà, où on anthropomorphise des petites graines dans un espèce de récit initiatique, de périple vraiment, assez sensoriel aussi, avec aussi une ambition d'aller vers quelque chose de l'ordre de la symphonie visuelle, puisqu'il y a une grande place aussi à la musique. C'est plutôt impressionnant, c'est un sacré travail de mise en scène pour le coup, et d'expérimentation visuelle, voilà, à vivre sur grand écran. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Adam, du coup.
Tout pareil. Effectivement, je vais pas revenir, évidemment, tu as très bien décrit le film, mon cher collègue. Ce que moi j'en tire, moi, plus personnellement, c'est un film très musical. C'est-à-dire sur notamment une des inspirations, et je suis pas peu fier, c'est du coup Fantasia. Des studios Disney, et en fait il y a toute une partie musicale, notamment sur les décors, sur les bruits d'ambiance, et notamment aussi toute la bande son du film, et les deux se mêlent, et ça permet en fait ce rite initiatique tout en silence et tout en bruit et en décor assez impressionnant. C'est un film très drôle, et en fait c'est un film également qu'on pourrait voir avec toute la famille, vraiment, c'est et permettre aussi aux plus jeunes de découvrir ce que c'est le récit initiatique, et qui sont parmi les récits les plus importants qu'on peut découvrir. Et donc c'est vraiment un super beau film à voir, quoi.
Et bon, on s'écoute tout de suite l'échange que vous avez eu avec la réalisatrice.
Momoko Seto, du coup, bonjour.
Bonjour.
Moi, ma première question, ça serait, c'est un film d'animation du coup qui mélange prise de vue réelle et en même temps animation 3D si je ne m'abuse, beaucoup d'incrustation de 3D et j'ai vu au générique de fin qu'il y avait énormément de, enfin beaucoup de pays dans lesquels il y a eu des tournages, tournage en Islande, tournage au Japon si je ne me trompe pas, enfin voilà plusieurs pays et du coup je me suis demandé justement donc comment est-ce qu'on déploie une telle ampleur pour un tel film qui raconte quand même des enjeux très écologiques et qui en même temps raconte aussi une sorte un peu de, moi j'ai vu un peu un récit initiatique aussi quelque part, voilà, et un rapport aussi à la nature, au microcosme un petit peu aussi. Comment est né le projet? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du projet, de comment s'est déployée toute cette ampleur un peu autour du film?
Merci. On blaguait juste avant en disant que c'est à vous de me répondre à mes questions. Oui. Comment vous avez pensé au film? Ouais. Mais oui, bien sûr, la fabrication, elle est intrigante. Alors, il y a très peu d'animation 3D, puisque le principal animation 3D, c'est les personnages. Oui. Donc, c'est les graines de pissenlit qui sont animées voilà, en 3D par des graphistes. Mais tout le reste de l'image est une sorte de collage de tous les endroits que nous sommes partis filmer pendant 260 jours avec mon chef opérateur, d'étaler sur 2 ans et demi, dans différents pays. Et donc, l'histoire est l'histoire de 4 graines de pissenlit. Pissenlit esquivé de la Terre, qui rentre dans un trou noir, qui arrive dans un autre espace-temps et qui trouve cette nouvelle planète qui est complètement congelée. Et donc, en fait, pour créer ces paysages congelés, cet environnement congelé, on a eu l'idée de partir en Islande pour filmer tous les étendues de paysages, les glaciers, les icebergs, à l'intérieur d'une grotte gelée pour faire tout un ciel qui est congelé. Donc, le ciel, la stratosphère est gelée dans le film. Je trouvais que c'était une idée assez poétique de ma part, j'étais assez fière, mais il fallait le filmer, donc on avait trouvé une grotte à l'intérieur d'un glacier pour filmer voilà, ces plafonds-là. Donc tout le tournage en Islande, c'était pour créer le monde gelé. Après, il y a un réchauffement qui se passe dans l'histoire et tout commence à fondre. Il y a un tsunami qui arrive, ils sont emportés dans l'océan et ils arrivent dans une nouvelle terre où commencent à pousser les nouvelles plantes. Et toutes ces nouvelles plantes qui arrivent, c'est des maquettes donc, qu'on a construites en France pendant 9 mois en Bourgogne. Donc on a eu 20aine de maquettes, des plus petites plantes jusqu'aux grands fougères, jusqu'à une forêt, jusqu'à des mares toxiques. Voilà, toutes ces topographies-là qui sont dans le film, c'est des vraies plantes qu'on a plantées dans un énorme bac où on les a maintenues en vie, donc on les a arrosées, on les a pris soin pour pouvoir filmer en time-lapse. Donc c'est une technique qui consiste à photographier pendant un certain intervalle donné, pendant tous les 10 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les minutes, pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, 1 mois. Et donc comme ça on voit la croissance des plantes comme si elles n'étaient pas inertes mais qu'elles étaient des personnages, qu'elles étaient des personnages secondaires qui étaient là, qui accueillaient, ou comme des animaux un peu. Donc voilà, ça c'était en Bourgogne. Et après on est parti au Japon pendant 3 mois à filmer des faunes et flores qui sont que en Asie. Donc par exemple, vous avez vu autour des cadavres de limaces, à un moment les limaces sont attaquées par les blobs. Et donc il y a des fleurs blanches, un peu comme des pénitences qui poussent sur les côtés, qui arrivent là comme des fantômes. Ben, ça c'est des fleurs qui se trouvent dans les forêts au Japon, qui ne se trouve pas en Europe. Et donc, quand je les avais vus sur une photo, je me disais, mais on dirait des fantômes, des gardiens de la mort. Donc, j'avais projeté plein d'images. Et donc, on est parti filmer ça. Et plus des mousses, parce qu'on était sur une île au sud du Japon qui s'appelle Yakushima, où abritent 600 sortes de mousses différentes. Et donc, on voulait filmer ces mousses-là, les premiers pousses qui arrivent.
Ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, en plus, vous parlez du coup de... c'est un peu de l'anthropomorphisation un petit peu aussi de la nature et aussi de transformer du coup ces éléments naturels en vrais personnages de cinéma, de contes aussi un petit peu. Moi j'ai vraiment vu une fable, un conte, voilà. Et en même temps il y a une démarche vraiment quasi expérimentale par moment dans les images. C'est un film qui est quand même sans dialogue. Moi c'est marrant parce que du coup hier soir je suis allé voir Koyanis Katsi, je sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, voilà, oui j'imagine du coup oui, ça vous parle, et qui est aussi dans une démarche expérimentale, et vous parlez de timelapse, il y a aussi des timelapses qui sont très impressionnants dedans, les vôtres le sont tout autant aussi d'ailleurs, et voilà. Et du coup, est-ce que Koyanis Katsi par exemple est un film référence pour vous, pour la conception de planète ou...
Alors oui, bien sûr, Koyanis Katsi était un film important. Quand j'étais étudiante, j'avais découvert en plus aux États-Unis à l'époque, j'étais partie 6 mois à San Francisco, et
et toute la musique portée par Philip Glass était voilà, quelque chose de très marquant pour moi. Et de pouvoir faire un film de cette manière-là, qui raconte ça, qui raconte aussi toute l'humanité, toute la, la métamorphose de ce monde, son dialogue aussi, et porté par la musique, je trouvais ça extrêmement fort. Quand j'avais conçu Planète, j'avais bien évidemment en référence des films comme Koyaanisqatsi, même voilà, Fantasia, qui est porté par plein de grands musiciens.
C'est ce que je lui disais, je me dis, c'est bizarre, il y a un côté Fantasia, ce qui est un côté aussi très mélodique dans le film, c'est quasiment un film musical, je trouve.
Exactement, et initialement je voulais faire une sorte de Fantasia de 21e siècle, donc demander à Philip Glass ou à des grands compositeurs de 20e siècle, de musique concrète, des choses comme ça, qui pour pouvoir faire ce film. Et je trouvais quand même que c'était... Alors, la proposition est déjà assez expérimentale. Si la musique elle devient aussi très expérimentale, j'avais peur que ça devienne un peu niche. Et du coup, dont le basculement un peu plus vers Fantasia, c'est-à-dire voilà, Nicolas Becker et Quentin Sirja, qui sont les deux auteurs de la musique, j'avais bien évidemment parlé... De ces musiques-là, mais que voilà, je voulais quand même ouvrir, mais que je voulais quand même pas non plus ouvrir de façon trop démocratique, mais d'ouvrir de façon créative. Voilà. C'est-à-dire que c'est ouvert, mais il y a quand même quelque chose de recherche dedans. C'est-à-dire Nicolas Becker qui me disait, mais toi, tu nous montres à voir des choses qu'on n'a jamais vues. Nous, on veut aussi donner à écouter des sons qu'on a pas forcément entendu ou qu'on a rarement entendu. Donc quand ils ont composé la musique, qui était aussi important pour souligner les émotions, donc on était vraiment dans un curseur de soit on bascule dans l'émotion et dans le voilà, dans quelque chose de très très global, très très général, très très démocratique, tout ça qui est très bien, ou soit on part dans un truc beaucoup plus pointu qui nous demande quand même certaines voilà, certaines ouvertures d'esprit pour comprendre cette musique là. Voilà, on basculait entre les deux. Moi personnellement, j'aime les musiques très obscures, voilà, que personne n'écoute. Enfin, c'est ce genre de personne. Et mes musiciens aussi, je crois. Mais on voulait avoir voilà, quelque chose d'accessible aussi, parce que c'était aussi des films pour les enfants. Donc, ils ont écrit de la musique qui est orchestrale, mais ils ont convié beaucoup d'instruments de musique qui ne sont pas forcément habitués à l'oreille. Je ne sais pas si vous avez discerné certains instruments, notamment on a du cristal bâché, qui est une énorme structure. Qui est une sorte de sculpture, mais en mettant de l'eau avec la main, on frotte les structures et ça sonne comme une sorte de futurisme, un son très futuriste et à la fois très archaïque. Donc c'était un peu les deux mots clés aussi qu'on avait, futuriste et archaïque, et la science-fiction des plantes. Donc on avait plusieurs quelle est la musique de science-fiction pour les plantes. Ils avaient aussi utilisé beaucoup des ondes Martenot. Donc c'est une sorte de piano avec une corde qu'on module, donc qui fait des sons comme qui est souvent un peu utilisé pour les fantômes des années 80, qu'ils ont utilisé aussi pour les voix des akènes, pour les voix des personnages. Ils ont utilisé les gamelons indonésiens qu'on voit quand on traverse l'anneau de calamar, c'est pas une blague, c'est vraiment un anneau de calamar pour rentrer dans cette planète là. Donc c'est les gamelons qui a un côté très tribal comme ça, mais en même temps à la fin il y a une valse qui fait référence à des valses de 1920 très Ravel comme ça qui arrive. Donc ils ont des petites références comme ça musicales qui est très d'ailleurs animation des années 20 hein, qui utilise beaucoup ce genre de musique, donc qui est très varié comme ça dans la musique. Donc c'est à la fois on vient de Philip Glass, on connaît Fantasia qui a été d'ailleurs fabriqué à l'envers parce que la musique existait déjà avant l'animation, mais qui embrasse en même temps quelque chose de très nouveau, de très contemporain, tout en ayant un héritage acquis de la musique.
Merci beaucoup Mokoseto.
Merci, au revoir.
Le Festival international du film d'Amiens, c'est quand même 8 sections différentes que nous allons essayer de vous faire découvrir tout au long de cette semaine. Et pour cette deuxième partie de On débobine, nous sommes allés à la rencontre du réalisateur philippin Nick De Ocampo. Et si je ne me trompe pas, c'est un réalisateur que tous et toutes avaient découvert cette année au FIFAM.
À moitié oui, parce qu'en fait j'en entends quand même parler. Moi, j'en ai entendu parler, je crois, en fait, quand je rentrais à la fac. Par mon prof Philippe Fauvel, en fait, parce qu'il en parlait déjà, mais il nous a parlé plus cette année, vu que du coup, il est au programme du FIFAM de cette année, donc voilà, et c'est un cinéaste queer, moi, je trouve, en fait, dont le visage de ses films Bah, je vais pas essayer d'abuser non plus, mais vraiment ça a été un manque en fait, qu'ils sont pas si accessibles que ça, et que le FIFA me permette de les découvrir ou de les faire redécouvrir pour certains, mais dans une qualité bien meilleure que celle de la salle. Ça permet aussi d'avoir un regard moderne sur ça, et d'où l'échange que j'ai eu avec lui en fait. C'est quelqu'un qui avait déjà un regard très moderne, très moderne sur le monde, quoi.
Bah, je te propose qu'on s'écoute votre rencontre, qui a été traduit aussi par une traductrice qui a accompagné Nick De Ocampo.
Pour ma première question, c'est que du coup vous êtes un des invités d'honneur pour cette édition du Festival international du film d'Amiens. Ce festival a pour thématique principale Ville en mouvement, et il y a quelque chose d'assez drôle, c'est la transition entre votre carrière de réalisateur et votre carrière en tant que chercheur et essayiste sur le cinéma philippin. Comment vous le voyez-vous?
There is a very close affinity or relationship between my being a director of documentaries, wherein you have to do a lot of research,
and then my career
très proche entre le in fait terms d'être of research that led me into becoming a film historian and a film author. Both of them really demand that I do research.
So research is the fundamental relationship that made it easy
for me to move from one career to the other. But it's not as if I turned my back from being a director. I still
recherche, c'est la relation qui rend la transition facile.
I add something to it, which is to write books, because I do a lot of research.
Avant de faire de la recherche, vous avez fait des films, et en fait, il y a la question de la loi martiale aux Philippines, et comment est-ce que ça a influencé votre travail, du coup, quand vous avez été jeune cinéaste, et comment est-ce que ça a influé dans votre manière de fabriquer les films, parce que vous avez une dimension très queer dans votre cinéma.
Well, martial law means military regime, and the military represses rather than allows for the expression of economics, politics, and even of gender. So I grew up within 20 years under martial law.
Donc,
and because it's a military regime, then,
you know,
everything is determined. Everything has to be macho. Everything has to be
military and male, right?
But I'm queer, you know. Since I was young, I was queer.
So do I fit in that society? So I grew up with
resentment, with anger, because you're being bullied. You're being laughed at. Being a homosexual means you're just in the margins. And I didn't like that. So in the next answer I'm going to have, so you begin to develop activism because there's a political movement that was happening. So I identified myself with a more activist approach towards my own gender expression.
Quand vous avez réalisé du coup vos courts-métrages, on a eu quand vous les avez fait par rapport à la loi martiale et en fait votre volonté d'activisme, en serait-il le même aujourd'hui? Et je dirais pas de manière en tant que cinéaste, mais en tant que chercheur. Comment est-ce que vous réfléchirez aujourd'hui sur les courts-métrages que vous avez faits?
As we speak now, there is a big disturbance, social disturbance happening in the Philippines because of issues of corruption. It's a different generation, it's a different activism. Queer issue is now very much in the open, so it's not as militant as it was during the time of the martial law.
En ce moment même, en Philippines, il y a énormément d'instabilité plutôt de la corruption
in the queer community to happen.
Le fait d'être queer est un petit peu plus accepté maintenant, mais il y a encore des choses à acquérir.
I am now into right. I'm old.
I'm not young anymore. C'était un combat très viscéral, très
therefore
physique qui était mené contre le gouvernement. Mais son âge maintenant, il préfère travailler plutôt à l'écriture de livres.
Before it was very physical. I go into the street, you know. There was part of that. We marched into the Congress, demand for our rights. It was a very visceral and physical thing to do. But now my knees are becoming more soft, you know. I think the biggest battle is really towards writing. So I
would like to write a book on the history of queer in the Philippines, and from out of that, because of the research, then make a documentary on queer Manila, queer Philippines, you know, maybe, who knows? And I might show it here in Amiens.
Vous présentez du coup également un film philippin, Manil, de Lino Broca. Et il y a un lien qui se dessine puisque Oliver, votre premier documentaire, se déroule également à Manil. Quelle a été du coup votre rencontre avec ce film et à quel point il vous a marqué
Lino Broca was a big name. So I must have been in my 20s when the film was shown and I was already in love with cinema. And Lino Broca represented a new consciousness. He wanted to change things. He was also an activist and a militant. We come from the same university. So when he made that film, it was very critical. There was a lot of attention that was given to it. And
donc,
what happened was I was just beginning to make my own film. And so Broca and his films on Manila represented some kind of a model of which to consider. But there was another filmmaker that maybe you should feature here in Amiens. He is contemporaneous to Lino Broca. His name is Ismael Bernal. He also made a film on queer Manila, more queer than this Manila by Night. Manila in the Cross of Neon, wherein there's only a small segment of queer. But the other film that I'm talking about is really big. I think I need to suggest that film in your program and show it next year, whatever. But how did I come about? Because I watched the film. It's not a very popular film, not so many people, it's not commercial in the way we know it, and therefore not so many people watched it, but some were very critical. So I was a young viewer, I watched the film, it made a great impression in me, and so to a certain point, my film Oliver and Manila in the Claws of Neon and Manila by Night, you can put them all together about Manila, and then you have some kind of a realistic view of what the society was under the martial law.
Dans cette session qui vous est consacrée, comme quasiment en fait une semi-rétrospective, il y a peut-être sûrement des gens aussi qui vont découvrir ce que vous avez fait en matière de cinéma. Et qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui qu'ils en tirent? Comment est-ce qu'ils vont le voir? Parce qu'il y a aussi une sorte de naissance, nous en France, d'un nouveau cinéma peut-être plus assumé queer aussi quelque part. Est-ce que vous pensez qu'ils vont en tirer?
Understanding, I think that is a very important thing between cultures and between people, that we get to understand each other, because I think issues like homosexuality or queerness is very sensational, and people can just think in so many ways, about a country and about a people and about a gender, without fully knowing, what is the reality behind it. In fact, this is my problem with fiction films like Broca or Ismael Bernal. They look big on the screen. They look,
it looks spectacular. Dans certains films, surtout de fiction.
But documentaries.
Aussi un sens de,
so,
de la réalité,
I would like to think, and this is political and ideological,
that
where is the truth?
Fait des films queer,
I'm a homosexual, I make
queer,
a film about a homosexual, I make really a queer film.
Qui,
if you ask when he was alive, Broca or Bernal, whether they're queer or are they making queer films, they are not
very,
should I say, honest. Let's not talk about queerness. Queer is part of their film, but it's not queer.
Avec tout ça, il y a aussi
I don't believe in that. I'm a different generation. I'm queer, and I'm going to fight for it. Because
ont été les queer
with queerness is my right as a human being. With queerness, I know there is a community that really needs health services, there was AIDS, there was pandemic, there was, so health issues. If you're not going to recognize the community. And I'm sorry this is taking long because he is asking me to be political about this, that, you know, I mean, there's also a human right issue. We cannot just be put to prison because, you know, we're homosexuals. There's also the economic reason. Economic as in, as homosexuals, we're not getting the, you know, the opportunities to work with good pay. And we are very good. You know, we are very good. All right. So my point is that it is my generation in the 80s, because Broca and Bernal was in the 70s. So in the 80s, we have to move forward, especially in the time of the dictatorship, that we have to fight for our rights. And then there's also the Catholic religion. You know, I mean, until now, the misunderstanding is there. We're sinners. We're not worthy to be saved. You know, I mean, this is so painful, you know. I mean, you live only once and then suddenly you're condemned to hell. You know, it's very emotional and you triggered the question.
Nido Campo, thank you.
Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you.
C'était l'interview de Nick Deocampo, invité d'honneur du FIFAM, Festival International du Film d'Amiens. Alors comme vous le savez, l'émission est en rediffusion à 18h30, donc nous vous proposons un rapide aperçu des films de ce soir. Et on commence avec le film en compétition, Derrière les drapeaux, le soleil de Juanro Pereira à 20h30 au Petit Théâtre. Manille de Lino Broca au cinéma Orson Welles, une proposition de Nick Deocampo. Ça c'est pour la Maison de la Culture et du côté du Ciné Saint-Leu, retrouvez Ma Frère de Lise Akoka et Roman Guéret. C'est tout pour ce premier épisode de On débobine, l'émission quotidienne du Festival du Film d'Amiens. Demain, nous allons aborder les longs, moyens et courts-métrages en compétition. Restez à l'écoute de Radio Campus Amiens. Merci à vous l'équipe et à demain pour de nouveaux échanges autour de nos coups de cœur. À demain.